Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de régime cétogène pour le mental, des intestins en vacances et des différentes machines de musculation. Ça sera une question d'un auditeur, voilà. Et on parlera peut-être un peu du fructose et de la muscu aussi après. Bon, j'espère que vous allez bien. Les podcasts continuent là durant les vacances. Il y aura peut-être une semaine de pause où je mettrai un petit replay. On verra. Mais en tout cas, là, ça continue pour le moment. Donc, on verra si la semaine prochaine, il y en aura un ou pas. Je savais pas si j'en faisais un cette semaine. Parce que je comprends, les gens sont en vacances. Bon, ils ont pas forcément la tête au podcast. Bien que les chiffres d'écoute soient à peu près similaires, mais bon, je peux comprendre quand on est en vacances qu'on fasse aussi une pause sur ces routines sportives, diètes et tout pour lâcher un peu la pression. Bon, bref, régime cétogène, un espoir pour soigner les maladies mentales. Alors, c'est le docteur Albert Danan, psychiatre à Toulouse, qui a évalué son efficacité donc du régime cétogène chez des patients atteints de troubles mentaux graves. Et il nous livre ses explications. Donc, il dit une étude inédite, blablabla. Alors, quels sont les troubles mentaux déjà ? Donc, les troubles mentaux tels que la bipolarité, la schizophrénie ou la dépression sont souvent difficiles à traiter. Vous voyez bien que la dépression est mise avec la bipolarité, la schizophrénie. Donc, ce qui est bien, c'est que de plus en plus, déjà, on commence à voir que la dépression est greffée à une vraie pathologie reconnue, quoi. C'est plus genre le trouble de l'humeur, quoi. Les traitements mis en place sont rarement efficaces sur le long terme et peu de patients guérissent. Alors là, ils sont un peu pessimistes, hein. Et c'est vrai que pour la dépression, il y a beaucoup de patients qui font des récidives, mais il y a aussi pas mal de personnes qui s'en sortent. Mais bon, c'est un peu comme vous savez sur les forums de médecine, on voit que les cas les plus graves parce que en fait ceux qui vont bien, ils viennent pas quoi. Et c'est comme sur les forums de muscu, on a l'impression que tout le monde galère parce que ceux qui arrivent, ils viennent pas. Enfin bon, voilà, c'est toujours la même chose. Bon, il parle de tout ça, donc moi j'ai envie de vous amener là où ça vous intéresse. Alors pourquoi ça marcherait ? Donc il dit c'est assez logique car le régime cétogène est efficace pour traiter l'épilepsie. Alors déjà, faut pas oublier que l'épilepsie ça a été un des premiers problèmes traités par la diète cétogène, hein. Une maladie neurologique, et il est probable qu'il puisse aussi aider à la prise en charge des maladies psychiatriques. En effet, les deux types de maladies sont liés au cerveau et partagent des désordres biochimiques communs. Citons par exemple un métabolisme du glucose altéré ou une mauvaise régulation des systèmes de neurotransmetteurs. Donc ils disent là, le régime cétogène permet de prendre en charge les troubles métaboliques sérieux dont sont atteints les patients, ce qui est primordial, précise Albert Danan. Mais c'est un médecin ? Oui, c'est un docteur, oui. Et j'avais moi-même été témoin de l'amélioration des symptômes autistiques chez une personne qui suivait le régime cétogène. C'est comme ça que je me suis intéressé à ce régime pour traiter les maladies psychiatriques, poursuit-il. Donc une étude inédite, les patients, pour cette étude, 31 patients souffrant d'une maladie mentale sérieuse, donc ou la dépression, ou trouble bipolaire ou schizophrénie, et réfractaires au traitement classique, donc les médicaments et les psychothérapies, donc c'est pas que les médicaments, hein, ont été soumis à un régime cétogène en milieu hospitalier. Ces patients présentaient également une maladie métabolique. Les patients ont tout de suite accepté de tenter le régime cétogène, précise le docteur Danan. Je sais pas si on dit Danan, enfin bon, on s'en fout. Ce sera à lui de nous le dire s'il nous écoute. La relation de confiance qu'il a établie avec eux au fil des années a vraisemblablement aidé. Bon, et après ils disent combien de glucides, etc. Mais bon, le régime cétogène, c'est pas la question là. Là, il parle d'une nette amélioration des symptômes. Sur les 31 patients, seuls 3 ne sont pas allés au bout de l'intervention. Chez les 28 autres, les chercheurs ont noté une amélioration significative de l'humeur, des symptômes dépressifs ou psychotiques, généralement dans les 3 semaines après le début du régime cétogène. Ce qui est plutôt pas mal, parce que les médicaments, ils disaient, je sais plus où, que ça mettait 4 à 6 ou 8 semaines à agir selon les personnes. Donc là, déjà, on a 3 semaines après le début du régime cétogène, ce qui est bien. Parallèlement, plusieurs marqueurs de santé métabolique se sont améliorés. Perte de poids, diminution de la tension artérielle, de la glycémie et des triglycérides. Le régime cétogène a amélioré le statut métabolique des patients, mais j'ai aussi observé une diminution de leurs symptômes psychiatriques, comme les hallucinations par exemple. Enfin, le régime cétogène a permis à 64% des patients de quitter l'hôpital avec moins de médicaments et à 43% d'entre eux d'obtenir une rémission clinique. Donc ça veut dire que la majorité sont partis de l'hôpital avec des médocs, mais bon, ils ont quand même pu quitter l'hôpital, et 43% obtenir une rémission clinique, donc j'imagine absence de symptômes cliniquement vérifiables, quoi. Globalement, juste après l'hospitalisation, un patient sur deux a continué le régime cétogène. Aujourd'hui, environ un tiers des patients continuent à avoir des habitudes nutritionnelles considérablement différentes de celles qu'ils avaient avant l'étude. C'est vrai que très souvent, en fait, quand on voit, vous savez, quand on parle de dépression, très souvent, dépression peut mener au surpoids, peut mener à la baisse de la testostérone, peut mener à des problèmes métaboliques, etc. Et c'est vrai que qui dit dépression dit peut-être à long terme obésité, qui mènera probablement à de l'hypertension ou du diabète de type 2, etc., etc. Et là, en fait, on voit que je comprends pas pourquoi toujours elle est attaquée autant cette diète, en fait, cette approche alimentaire. On est vraiment en ce moment dans un monde. J'en parle souvent parce que je regarde pas mal de documentaires là durant l'été. J'ai un peu plus de temps, donc je regarde des documentaires et on voit à quel point tout l'entourage, tout le monde, alors que ça soit les proches, que ce soit les médias, tout le monde essaye d'équilibrer notre nutrition à base de sucré, de produits plaisir et tout, comme si on pouvait être carencé en mauvais produits, en produits transformés et tout. Et c'est vrai que le régime cétogène, enfin, si on regarde la liste des ingrédients dans les plats transformés et tout, et qu'on dit à une personne un régime cétogène versus un régime moderne, là, vous savez, à base de petits déjeuners sucrés, céréales, de pâtes à tartiner au goûter, de croissants et tout. Et en fait, si vous voulez, si on dit lequel est le plus dangereux, il y a plein de gens qui vont dire mais c'est le cétogène parce qu'il n'y a plus du tout de glucides et tout. Et l'autre, c'est vu que tout le monde le fait et les gens meurent pas tout de suite, ça va. Meurent pas tout de suite, vous entendez la précision que je viens de mettre. Hein. Et c'est ça, en fait, moi, qui me paraît étrange, c'est que il y a quelque chose qui œuvre pour adoucir les régimes les plus malsains. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu personne dire que le régime Nutella, McDo, Nesquik guérit de la dépression. Jamais, on n'a jamais entendu ça, en fait. C'est au pire, ça conduirait à ça, peut-être, mais on n'a jamais entendu. Et pourtant, ils sont plus défendus que des régimes qui donnent des résultats, quoi. Donc, du coup, et je dis pas que tout le monde doit suivre un régime cétogène, loin de là, enfin bon. Mais c'est juste la différence, en fait, l'acceptation totale qu'il y a pour des choses qui sont avérées dangereuses et des choses qui sont étudiées et qui peuvent apporter des bienfaits, non. Et c'est vrai que je dis ça parce qu'en fait, tout ce qui est autour du sucre, j'en ai parlé là encore ce week-end, on va prendre le cas des céréales, les céréales sucrées du petit-déjeuner. Peu importe, vous prenez n'importe lesquelles, les céréales pour les gosses, là. Moi, personnellement, il m'arrive d'en consommer à un seul moment dans l'année, c'est en vacances. J'aime bien, pendant les vacances, prendre un paquet de céréales, peu importe, je sais pas, un truc que j'aime, sucré. Mais en fait, je le considère pas comme un paquet de céréales, comme un petit déjeuner. Je le considère comme si j'achetais un paquet des M&M's, en fait. Ou des Twix, ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que je le considère comme des bonbons. Enfin, les céréales comme ça, je les considère comme des bonbons. Et j'ai pas tort de le faire, puisque c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est du sucre. Mais si on les considère comme ça, ça va. C'est-à-dire que c'est un plaisir ponctuel, ce sont des bonbons, ok. Mais à partir du moment où on les considère comme un repas équilibré et sain, là, c'est problématique. Parce qu'avec ça, on va croire aussi que le jus de fruits, c'est sain. On va croire aussi que le pain blanc, c'est sain. Et après, on a un pied dans le piège à loup, quoi. C'est foutu. On est complètement contaminé par le sucre et c'est mort, en fait. Et c'est pour ça que quand on parle de régime cétogène, vous savez, ceux qui défendent le plus la diète glucidique et tout, c'est ceux qui sont accros. Hein. Ceux qui ne peuvent pas s'en passer vont défendre à fond. Dire c'est pas grave et tout. Et c'est pareil, j'entends énormément de personnes me dire, À quel moment, Théo, je pourrais remanger normalement? Alors déjà, je leur dis toujours, quelle est ta norme? Ta norme, est-ce que c'est celle qui t'a conduit à venir me voir pour perdre du poids? Si la réponse est oui, jamais en fait, puisque sinon tu vas reprendre du poids. Et si, en deuxième lieu, ta norme étant de remanger des saloperies, type du sucre et tout, c'est comme de dire à un fumeur, bah vas-y, arrête-toi de fumer 6 mois, et dans 6 mois, tu pourras refumer. Ou comme un alcoolique de dire, bah arrête-toi de boire pendant 6 mois, et puis dans 6 mois, tu pourras te remettre à boire. Peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent à fumer de temps en temps, sans redevenir accro. C'est-à-dire une cigarette par an, ou une chose comme ça, ou quelqu'un, un ancien alcoolique à boire une fois ou deux par an. Peut-être qu'il y en a qui y arrivent. Mais globalement, les gens restent loin de tout ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent replonger. Donc, de dire à quelqu'un qui s'est sevré du sucre, qui a arrêté de manger des produits sucrés, bah, quand tu auras perdu ton poids, tu pourras les remanger comme avant. En fait, c'est lui dire, bah, je te remets dans la merde. Et j'avais des débats là, avec des amis récemment là-dessus. Quand ils disaient, ouais, mais les régimes ne marchent pas puisque les gens prennent de plus en plus de poids. Mais c'est pas les régimes, c'est le fait de l'arrêter qui fait prendre du poids. On est bien d'accord. Les régimes fonctionnent. Toutes les personnes qui font des régimes yo-yo, ce qui marche pas, c'est pas le régime, c'est l'effet yo-yo. Et l'effet yo-yo, c'est quoi? C'est le fait d'arrêter le régime et de remanger comme avant le régime, voire plus. Donc je sais qu'il y a beaucoup de médecins, de psychiatres et tout qui disent ah bah les régimes et tout, mais un régime moderne à base de Nutella, enfin j'aime pas dire les marques, dont on va dire de pâte à tartiner, de céréales sucrées, de biscuits et tout, c'est un régime aussi. C'est un régime, c'est pas un régime de perte de poids, un régime c'est on va dire un mode alimentaire. Donc c'est un régime, on appelle ça le régime occidental, moderne, régime moderne. Donc on fait tous des régimes, peu importe. On s'astreint tous à une forme de régime alimentaire. Et moi, je suis pas contre les régimes, puisque les régimes, c'est ce qui aide les gens, en fait. Ce qui foire, c'est juste qu'ils sont pas éduqués, les gens. Ils pensent qu'à un moment donné, ça va revenir comme avant. Mais non. Le régime étant... un régime restrictif, pour moi, c'est comme... Je le répète souvent, mais c'est comme... Alors nous, notre génération, on n'a pas fait l'armée. Mais pour ceux qui sont entrés dans la gendarmerie ou dans l'armée, etc., normalement, vous avez fait vos classes. La période de classe, c'est censé être une période assez difficile d'entraînement, de préparation et tout ça. Pour après, en fait, on rétropédale un petit peu. C'est-à-dire que c'est un peu, on a connu pire pour que ce soit mieux. Et après, que ça soit plus agréable. C'est comme les sportifs de haut niveau. L'entraînement est censé être plus difficile que la compétition. Et ben là, c'est pareil. Le régime est censé être plus difficile que la future vie à long terme. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est faut se dire, mon régime est difficile. Après, ça sera moins difficile, mais par contre, ça sera pas comme avant le régime. Parce que sinon, je vais redevenir comme avant le régime. Mais bon, vous savez, il y a peu de gens pour me confirmer ça, pour aller dans mon sens, à part vous qui, enfin, beaucoup d'entre vous qui ont réussi à perdre du poids sur le long terme, mais globalement, on n'entend que des gens qui font des régimes et qui reprennent tout. Et qui vont après jusqu'à l'opération et tout. Et on regarde, l'opération mène, en fait, à manger moins. Donc, en fait, la clé, c'est de manger moins. Et, enfin, c'est ça qui est malheureux, en fait, hein. C'est le On a très peu d'exemples de gens qui sont restés minces sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne va aller les interviewer quand on fait des reportages. On va pas aller voir quelqu'un, c'est pas assez choquant et ça énerve en plus d'aller voir quelqu'un qui a perdu son poids et qui 10 ans ou 15 ans après ne l'a pas repris, ça énerve tout le monde. On veut des gens qui réconfortent, des gens qui disent ah ben il est comme moi, il a essayé mais il a pas réussi. C'est mieux. Pour voir des gens qui énervent, on va sur Instagram. Voilà, pas besoin d'allumer une émission de télé, quoi. Bref, quand nos intestins souffrent en vacances, c'est un autre article. Vous voyez, je suis toujours un peu émotif avec ça, et d'ailleurs, les anciens en surpoids sont peut-être les plus... Comment on appelle ça? Je suis peut-être assez intolérant. Parce qu'en fait, on peut pas me la faire à l'envers. On peut pas me la faire à l'envers, j'ai été en surpoids, et disons que je peux pas me laisser manipuler par les émotions des gens. C'est déjà une bonne chose. Après, on est tous différents, évidemment, mais j'ai un peu moins de résistance et de, je vais moins culpabiliser parce que je connais les douleurs du surpoids. Je connais aussi les conforts du surpoids parce qu'il y en a. Je les ai vécues. Honnêtement, quand je me faisais des plats de pâtes, quasiment un paquet de pâtes à moi tout seul, avec de la sauce, du saumon fumé ou des lardons, de la crème et tout, et du gruyère, j'étais pas obligé. J'aurais pu me faire moins de pâtes avec des courgettes, des choses comme ça. Mais je choisissais l'option de me faire grassement plaisir ou glucidement plaisir. Et finalement, je peux pas dire qu'il y a que des inconvénients. Parce que quand j'étais en surpoids, tous mes repas étaient source de plaisir intense, tout le temps. C'est-à-dire que c'était pas du plaisir modéré comme je peux avoir aujourd'hui où j'aime ce que je mange, mais de manière modérée. C'est-à-dire que c'est pas des explosions en bouche. Avant, c'était que des explosions en bouche. Tous mes repas. Il fallait que ça pète en bouche tout le temps, que ça soit bon, que des saveurs intenses. Problématique, c'est que le prix à payer pour ça, c'est d'avoir une apparence qui nous convient pas, voilà, et qui nous bride dans la vie de tous les jours. Il faut encore dire les choses telles qu'elles sont. Au niveau vie de couple, je parle pas même pas du couple, mais de rencontrer, on va dire déjà, et ensuite parce que vous savez quand et ça c'est pareil, c'est politiquement incorrect de dire ça, mais une personne en surpoids, admettons vous êtes en surpoids, qui m'écoutait, mais je pense pas. En règle générale, c'est assez rare que les gens m'écoutent. Mais bon, vous avez du surpoids. Quand je parle du surpoids, c'est surpoids plus, hein, pas un petit surpoids comme ça, quelques kilos de Covid ou quoi. Un fort surpoids. On peut pas s'empêcher de se dire, quand on est en surpoids et qu'on est en couple, de se dire, est-ce que si j'avais la forme, j'aurais trouvé mieux? Des choses qui sont, qui mettent un peu la boule à la gorge de le dire, mais c'est ça. Et quand on est avec une nana, par exemple, ou si vous êtes une nana et que vous êtes avec un mec qui est en surpoids, et où vous êtes un mec, vous êtes avec une nana qui est en surpoids, vous pouvez pas vous empêcher de vous dire, mais si elle maigrit, est-ce qu'elle va pas se barrer, quoi. Et c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a un lien entre l'apparence physique et le niveau d'attraction, la capacité à attirer les autres, quoi. Bon, bref, on passe à autre chose. Quand nos intestins souffrent en vacances, alors là, c'est un article qui... Alors, tout ce que je dis, comme d'habitude, je me répéterai jamais assez, mais tous les liens sont dans les notes du podcast que vous avez reçu par mail ou que vous retrouvez sous l'épisode. Que faire lors d'un épisode de diarrhée aiguë quand vous êtes en vacances? Alors, quand faut-il s'inquiéter? Là, il donne un petit truc. Sur les épisodes de diarrhée aiguë, sont le plus souvent bénins. Certains signes doivent immédiatement alerter. Sur la présence d'un trouble grave, il faut ainsi consulter un médecin au plus vite. En cas de diarrhée qui dure plus de 7 jours, fièvre, sang frais et ou glaire liquide visqueuse de couleur blanchâtre dans les selles, état général mauvais, épuisement, vertige, etc. Impossibilité de se réhydrater en cas de vomissement important notamment. Bon, ça c'est, on va dire, c'est le petit truc d'alerte, voilà. Mais bon, là, on va être plus soft pour ceux qui voyagent, voyagent au bord de la mer et repas entre amis, saison estivale, basson plein et l'heure est au délassement, hop, et puis vous chopez une petite tourista ou une petite diarrhée aiguë. Bon, ça fait chier, c'est le cas de le dire. La plupart du temps, donc là je cite, hein, la plupart du temps, les troubles intestinaux infectieux sont sans gravité, ne nécessitent pas de traitement médicamenteux, sauf prescription médicale. L'utilisation de médicaments ralentisseurs du transit intestinal de type Imodium reste possible, mais avec précaution. Ces médicaments ne soignent pas les diarrhées, mais en diminuent les symptômes, indique la docteure Mioton. Il est pratique de les avoir sur soi si l'on doit impérativement voyager en étant malade, par exemple. Mais ils ne doivent être utilisés qu'en l'absence de signes de gravité et sur de courtes durées, car ils peuvent masquer la présence d'un trouble plus grave. Donc en gros, si je comprends bien, si vous n'avez pas le choix que de bloquer votre diarrhée, de prendre un médoc comme ça, ok. Mais ça ne doit pas venir le bloquer, par exemple, si vous avez accès à des chiottes, tranquille, quoi. Et d'être peinard, enfin voilà, quoi. Enfin, c'est ce que je comprends. Donc, ne pas le prendre. En fait, de la diarrhée, de la laisser s'évacuer. Vous savez, la diarrhée, c'est pas pour rien qu'elle existe, hein. Bon, bref. Les clés, bien s'hydrater. Alors, en l'absence de traitement, la seule attitude à adopter en attendant la diminution des symptômes est de bien s'hydrater. Parce que, en fait, en gros, je vous le dis, hein, vous perdez beaucoup d'eau quand vous videz comme ça par le bas. Il est capital de se réhydrater chaque jour avec au moins 1,5 litre d'eau, idéalement mélangé avec un peu de sel et de sucre, conseille la spécialiste. On peut aussi opter pour des bouillons de légumes ou du thé sucré accompagné de biscuits salés. À noter que le Coca-Cola, souvent présenté comme une solution pour soulager les symptômes, peut en réalité empirer les diarrhées en raison de sa haute teneur en sucre. Alors moi, Quand j'étais gosse, je me souviendrai toujours, j'étais parti une fois avec mes parents et plein d'amis, enfin, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils nous offraient une chose, et je leur serai éternellement reconnaissant pour ça. Chaque année, on partait en vacances. Alors, c'était pas des vacances à l'étranger dans les trucs de luxe. C'était le petit camping où on plantait la tente. C'était pas le mobil-home, ni le, c'était la toile de tente. Et des fois, il y avait des gîtes de France et tout. Mais on partait notre petite semaine comme ça en vacances. Et c'était génial. On se retrouvait avec plein d'amis. C'était vraiment super. Et je me souviens d'une fois, et j'ai eu une diarrhée, mais foudroyante. C'est-à-dire qu'on faisait une rando, et on a dû s'arrêter à un endroit pour boire un verre. Et là, mais une diarrhée, bon, j'étais aux toilettes, j'étais petit, hein, mais vraiment petit. Et mais je m'en souviens, donc je devais avoir, je sais pas, peut-être moins de 7 ans, quoi. Et ben le traitement de un peu à l'ancienne que m'avaient filé mes parents, c'était un verre de coca. Et vous savez, quand vous allez dans un café, on vous file quand on vous donne un coca, alors je sais pas si ça se fait encore, mais avant il y avait une espèce de touillette là en plastique. D'ailleurs, on se demandait toujours, est-ce que c'est le même qui donne à tout le monde ou c'est des neufs à chaque fois, cette espèce de touillette en plastique un peu translucide là. En fait, on il fallait que je le remue le machin jusqu'à temps qu'il y ait plus du tout de gaz et le boire. Et ça avait marché très bien pour moi. Ça avait très bien marché. Et honnêtement, je trouve que c'est un traitement qui marche encore, hein, parce que je l'ai refait une fois adulte, et ça marche pas trop mal, quoi. Donc du coca sans bulle du tout. Alors je sais pas si ça marche avec du light, par contre, hein, mais il faut enlever les bulles. Alors je fais de la pub pour coca, mais bon, à la limite, si on peut le consommer juste comme un médicament, mais je crois qu'à la base le coca c'était un médoc. Mais bon, j'ai peut-être un doute. Donc eux ils disent que ça marche pas, ben moi j'infirme un peu ça. Sur moi ça avait marché. Parce que apparemment il y aurait trop de sucre, etc. Quelle attitude adopter une fois la crise passée? Parce qu'une fois que vous avez, c'est bon, la crise est passée, qu'est-ce qu'il faut faire? Là encore, il faut s'armer de patience. Dans les jours suivant l'épisode de diarrhée, on évitera de manger trop gras, trop sucré ou trop épicé. Les produits, mais bon, ça c'est pareil. Vous êtes en vacances. Comment éviter de manger trop gras, trop sucré, trop épicé? Trop épicé, je veux bien, ça, c'est faisable. Trop gras, bon, on évite les grillades. Trop sucré, ben on évite tout en fait, parce que là il y a même plus de parce que si vous faites un taboulé, c'est limite trop sucré déjà le taboulé, quoi. Raisin sec, la semoule de blé dur, bon. Donc c'est quoi la limite du trop sucré? C'est des trop de fruits, de gâteaux et tout, bah. À la limite, ok, quoi. On reste sur des aliments salés, quoi. Les produits laitiers sont également déconseillés, sans blague. La reprise d'une alimentation variée doit se faire de façon progressive en commençant par de petites quantités d'aliments constipants. Donc en fait, on cherche la constipation. C'est marrant, le podcast d'avant, on parlait justement de constipation. Donc on va chercher plutôt à manger des bananes, du riz et des carottes. Moi, perso, riz-carotte, c'est quand vous avez les intestins un peu démontés, c'est pas mal. La carotte est assez douce au niveau de la digestion, et le riz, bon, bah, c'est réputé pour pas trop empirer les choses, quoi. Et j'ai noté aussi un truc qui marche très bien, c'est la pomme de terre. Mais bon, l'IG est un peu élevé, mais pomme de terre refroidie, si vous avez peur de ça. Et donc, pomme de terre vapeur, mais refroidie, pas de la pomme de terre frite, hein, ni des chips. Et j'ai noté que ça marchait plutôt bien. Voilà, parce que le riz, c'est pas top de se constiper non plus pour rien. Alors, les précautions à prendre en voyageant, ils disent les épisodes de diarrhée sont extrêmement fréquents. Ils disent que les diarrhées du voyageur, bon, connues sous le nom de diarrhée du voyageur ou de tourista, ils sont habituellement dus à des bactéries. Ben, moi, je pense que le Covid nous a aidé un peu, hein. Prenez votre petit gel hydroalcoolique avec vous, je pense que c'est pas mal. Il existe aucun traitement préventif prouvé, ils disent, hein. Le seul moyen est d'éviter et de surveiller attentivement. Alors oui, effectivement, de pas boire l'eau qu'ils ont, l'eau locale, quoi, de boire plutôt des bouteilles d'eau. Et d'ailleurs, enfin, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'il faut vite boire pour vite s'adapter? Ou est-ce qu'il faut boire, mais en petite quantité, c'est-à-dire diluer un peu d'eau locale dans un... Je sais pas, après, moi, je suis pas médecin. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment l'éviter, c'est éviter de boire l'eau du robinet de là-bas, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Bon, on passe à la question VIP, qui est une question sur les machines de musculation. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, vous n'êtes pas en rendu compte, mais moi j'ai fait une petite pause pour me mettre à la clim. Mais vous savez, c'est les petites clims portatives là. Et j'ai l'impression d'avoir un Airbus A380 dans mon salon quand je l'allume, quoi. Donc je peux certainement pas la mettre en même temps que j'enregistre le podcast, quoi. Donc là c'est bon, j'ai réussi à faire descendre la pièce de 1 degré, donc je peux m'estimer heureux et reprendre l'épisode avec vous. Donc ça se trouve vous êtes au bord de la piscine, vous en train de vous détendre, peinard, en train de bronzer un petit peu, je sais pas où vous m'écoutez d'ailleurs, taguez-moi sur YouTube, ou pas sur YouTube, je crois qu'on peut pas le faire, je suis con, mais sur Insta. Pour me montrer où vous êtes en m'écoutant durant l'été, voilà. Donc la question de l'auditeur que vous pouvez vous aussi, c'est pas que vous aussi vous pouvez me poser une question, poser vos questions n'importe laquelle en anonyme. Vous avez un lien dans les notes du podcast. Alors il me dit fan de tous tes podcasts sur YouTube. Merci. Ils sont d'ailleurs disponibles partout ailleurs. Hein. Sous le pseudo. Bon, je vais pas donner ton pseudo non plus. Je voudrais savoir si, sur un prochain, tu pouvais parler des différences entre les machines de musculation qui me et nous perdent tous. Exemple, dans ma salle, j'ai une presse à cuisse inclinée et une horizontale. Bon, déjà, la presse à cuisse inclinée et la presse à cuisse horizontale, la différence que tu vas avoir, ça va être au niveau des sensations, mais également au niveau de la résistance, c'est-à-dire que quand tu fais tu regarderas ta presse à cuisse normalement celle dont tu parles, la horizontale. Alors je sais pas si c'est une horizontale ou c'est toi avec le chariot qui bouge, c'est-à-dire que c'est toi qui es sur un chariot et qui bouge, ou si toi qui es fixe et tu as la presse qui bouge. Alors souvent quand tu as la version où toi tu es fixe sur l'horizontale, hein, et c'est le plateau qui bouge, tu regarderas, mais ta presse fait un léger art de cercle. Et souvent, ces presses ne sont pas agréables. C'est-à-dire qu'elles ont une tension ultra violente au démarrage. Et d'ailleurs, tu pars d'en bas. C'est des presses où tu démarres d'en bas. Et c'est pas top. Ça, franchement, la problématique avec ces presses-là, c'est que tu pourras jamais mettre des supercharges lourdes parce qu'en fait, tu démarres à froid, hyper plié, quoi. Donc, c'est pas agréable. Par contre, je les trouve assez intéressantes pour faire les mollets, ce genre de presse. La presse à cuisse inclinée, le gros avantage, c'est que tu pars en position où tu as le maximum de force, c'est-à-dire en haut. Et donc, du coup, tu auras, dès la première répétition, pas mal d'énergie élastique. Souvent, en plus, tu es beaucoup plus stable dans le siège. Souvent, le fait d'être un peu semi-allongé, tu as aussi plus de réglages de mémoire sur ces machines. Alors moi, je vais plus en salle, mais de la presse, j'en ai fait pendant des années. Tu as beaucoup plus de réglages de siège, souvent de position de siège sur les presses inclinées que sur les presses horizontales. Après, les presses... que ça soit le chariot qui bouge ou le plateau qui bouge en horizontal, la grosse problématique, c'est que le point de départ, c'est très souvent et quasiment tout le temps la position d'étirement. Donc ça déjà, ça pose problème, quoi. C'est un peu des presses bas de gamme, quoi. Alors par contre, ce que tu peux faire sur des presses horizontales comme ça, parce que c'est toujours pareil, selon l'angle du siège, en fait, c'est ce qui va dépendre de le recrutement, par exemple, de tes quadriceps, c'est l'angle du plateau, l'angle du siège, en fait, comment ton corps va être placé par rapport à tes pieds, etc. Tu vois bien que sur une presse inclinée, quand tu mets tes pieds hauts sur le plateau ou tes pieds bas sur le plateau, tu n'as plus la même amplitude. Je te parle d'une amplitude avec toujours l'intégralité du pied plaqué sur le plateau. Si tu mets tes pieds tout en bas du plateau, tu te rends compte qu'à un moment donné où tes talons vont se lever. Selon ta souplesse de cheville, et donc du coup, certes, tu vas mieux taper sur tes quadris, mais tu auras une amplitude un petit peu réduite, sinon tu es obligé de lever les talons et c'est pas terrible, quoi. Et à l'inverse, si tu mets tes pieds assez haut sur le plateau, tu vas pouvoir descendre quasiment avec les genoux qui vont te toucher le menton sans trop de problèmes, enfin plutôt les oreilles. Après, tu auras des différences de recrutement, mais comme je te dis, l'horizontale, elle aura cette problématique de démarrage en position en fait, c'est la position la plus dangereuse là où tu démarres. Donc au niveau des poids, c'est compliqué. Par contre, ce que tu peux faire sur les horizontales, ce que moi je faisais, c'est que tu mets une charge intéressante, tu démarres à deux jambes, donc tu la lances à deux jambes, t'es pas non plus sur un maxi, et après tu fais de l'unilatéral. C'est-à-dire que tu tu la lances à deux jambes et après tu fais tout à une jambe. Là, ça peut se faire parce que du coup, le poids à une jambe n'est pas le même maxi qu'à deux jambes, donc il y a moins de risque de blessure au démarrage, quoi. Après, tu me dis, j'ai une machine à pec Technogym avec une poignée vers le haut, une autre vers le bas, et bon. En fait, tes machines à pec Technogym, là, si c'est les grosses jaunes, ah non, une machine à pec avec une poignée vers le haut et une poignée vers le bas. Bon, si c'est celle que je vois, donc parce que je les connais ces machines Technogym, il y en avait dans une des salles où je suis allé. Donc c'est un espèce d'hybride butterfly développé. Donc en fait c'est un espèce de développé convergent. Donc cette machine là, je vois les poignées. Donc ça c'est toujours pareil. Il faut que tu regardes ta position de départ et ta position de fin. C'est-à-dire que plus tu vas, en général, la poignée du haut, donc celle qui se termine, quand en fait, quand tu vas terminer la course, il y en a une où tu as les mains qui sont moins rapprochées que les autres. C'est ça qu'il faut que tu regardes. C'est-à-dire que, par exemple, on le sait aujourd'hui, que les fibres musculaires ont tendance à, si tu ne vas jamais dans une, si par exemple tu veux développer ton milieu de pec, tu auras plus de chances de le faire si tu fais du convergent et que tu vas bien chercher jusqu'au bout la contraction que si tu fais du développé couché à la barre. Alors qu'avant, on disait, peu importe, les pecs, les fibres, c'est pareil, elles se contractent pareil partout, ce qui est faux. Aujourd'hui, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc bref, pour te dire que c'est surtout ça qui va faire la différence. Tes poignets, sur tes, donc pareil, hein, si t'as une prise neutre, etc. C'est pour ça, souvent, les gens abandonnent la sensation, mais c'est quand même bien de savoir ce qui contracte, comment ça se contracte, etc. Tes poignets, là, sur ta machine à pec, plus ta course va démarrer écartée des pecs ou rapprochée des pecs, donc plus tu vas mettre de la tension ou pas, d'ailleurs, en position d'étirement, donc plus ça va être à la fois dangereux, mais à la fois traumatisant, donc potentiellement, tu vas taper bien dans les pecs. Et pareil, quand tu finiras ta course, est-ce que tu auras une position qui va te permettre de contracter vraiment très très fort tes pectoraux ou est-ce que tu sentiras que tu as encore une petite marge? Et ça va compter. Donc, moi, je la connais bien, cette machine. Je sais que je préférais faire la version où j'ai les mains, plutôt vers le haut. Donc, c'est-à-dire les poignets, on va dire comme si j'avais des haltères, mais pas la prise neutre. Toi, tu parles, je pense, de la prise neutre, qui permet la prise neutre. Je m'en servais quand je faisais de l'unilatéral, c'est-à-dire les poignets plutôt ce que toi t'appelles vers le bas, là, de l'unilatéral, parce que justement, en prise neutre, en unilatéral, je trouve que j'avais plus de force, c'était plus agréable. Parce qu'en fait, l'unilatéral avec la poignée du haut, donc c'est une poignée qui est plutôt horizontale. Quand tu fais de l'unilatéral, t'es obligé de te tourner un petit peu sur la machine. Et donc, du coup, ça casse un peu le poignet. Alors qu'une poignée verticale, tu peux tourner autour de la poignée. Donc, du coup, ça te pète pas le poignet, quoi. Bref, je sais pas si à l'audio, tout ce que je raconte, ça veut dire quelque chose. Pour ceux qui connaissent cette machine, ils comprennent exactement ce que je veux dire. Pour ceux qui la connaissent pas, ils sont totalement perdus. Donc, la position des poignets, c'est pour les différentes stimulations. Il y en a qui sont complètement stupides, qui servent à rien. Enfin voilà, c'est après c'est à vous. Il y a un travail de ressenti quand même dessus. Après tu me dis j'ai mille et un types d'accessoires pour la poulie, des barres de toutes sortes, des cordes. Bon bah là après c'est pareil, des barres de toutes sortes. Si tu fais du curl barre Z parce que chez toi le curl barre droite te fait mal à cause d'un léger valgus ou peu importe, et ça peut être intéressant pour toi quand tu fais du curl bar à la poulie basse de choisir aussi une barre Z. Mais bon, tout ça, après, c'est du bon sens. Si tu veux, tout ça, ce sont des outils. Je pourrais pas te dire il y a ça qui est bien, tout le reste c'est de la merde, parce que c'est faux en fait. Tous ces accessoires, regarde n'importe qui a un home gym, au début, ils se tournent vers les principaux. Donc une barre en V pour le dos, une corde pour les triceps et pour 2-3 mouvements, peut-être une petite barre et encore et surtout des poignées pour les poulies il va prendre. S'il a une poulie hein, évidemment au gym. Et après il va se dire tiens j'aimerais bien avoir aussi cette barre puis celle-là. Donc finalement on se retrouve à aimer utiliser tous les accessoires. Pourquoi? Parce que il y aura toujours un moment où ben peut-être que la corde à triceps ça te fera mal au coude donc tu voudras plutôt une barre en V et puis enfin voilà. Donc les accessoires voilés comme des outils qui vont se mettre à te servir à un moment donné. Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Il y a le minimum syndical à avoir, évidemment, mais il n'y a pas de... C'est sûr que si tu me dis, je sais pas moi, la corde unique là, parce que j'ai vu que maintenant on peut acheter les cordes à triceps là, vous savez, des petits bouts de corde juste pour faire de l'unilatéral. Je te dirais, ça c'est peut-être pas primordial tout de suite d'acheter la corde unilatérale. Mieux vaut acheter la corde à triceps complète, la grosse corde où tu peux faire à la fois du bilatéral et à la fois de l'unilatéral en fait aussi. Donc ça, d'accord. Ce genre de détails, c'est pareil pour le dos. Au lieu avant d'acheter une barre hyper complexe pour faire ton tirage d'eau, bah, commence par acheter la barre classique, celle qui ressemble à une barre de traction, pour commencer quoi. Après, tu me dis, il y a une machine à ischio assis, une allongée. Alors là, c'est pareil, c'est différent. À ischio assis, tu pourras recruter tes ischios d'une... En fait, la machine à ischio assis, l'avantage, c'est que t'as le buste qui est plus libre. Donc du coup, en contractant, tu pourras t'avancer un peu et en étirant, te reculer un peu. Ce qui te permet d'avoir une meilleure relation tension-longueur et donc d'exprimer mieux ta force durant tes séries. Quand tu le feras sur du leg curl allongé, il faut laisser un peu monter les fesses, parce que c'est ça en fait hein, qui, et d'ailleurs les coachs un peu cons te disent regarde les fesses plaquées sur le, c'est complètement con en fait hein. Il faut laisser, quand c'est lourd, laisser un petit peu ton buste remonter, c'est normal, puisque justement t'essayes c'est à ce moment là que ton corps essaye d'avoir le maximum de force et d'exprimer le maximum de relation tension longueur, justement vu que ton buste est bloqué. Mais donc je te dirais c'est mieux la machine à ischio assis. Mais moi, je sais que j'aime bien faire les deux. En fait, j'aime bien de faire de temps en temps de l'assis, de temps en temps de l'allongé, parce que c'est un peu comme tout. Hein. Au bout d'un moment, tu te crames sur un mouvement et t'aimes bien changer, quoi. Et si tu me dis, ben moi sur le leg curl assis, j'ai mes ischios. Après, ils sont congestionnés à fond. J'arrive à mettre des poids plus importants et tout. Ben, je te dirais, mais fonce. Mais si tu me dis pareil sur le allongé, je te dirais, ben, fonce aussi. Après, sur le allongé, je trouve personnellement que la tension d'étirement est un peu plus forte. Mais bon, après, ça vient des réglages qu'on fait sur la machine, hein, encore une fois. Mais moi, c'est mon avis, il faut faire attention, surtout si on n'est pas trop souple des ischios. Préparez bien vos ischios avant de passer sur une machine de leg curl allongé. Voilà. Mais c'est pareil sur les ischios assis. Hein, mais je trouve que la leg curl allongée est un petit peu plus violente sur l'étirement. Voilà. Donc, bon, pour te rassurer par rapport à ta question, logiquement, à part des... Il y a beaucoup de mauvaises machines, c'est vrai, il y a des machines qui t'abènent n'importe où, comme dirait Gundil. C'est vrai qu'il y a des machines qui sont... Par exemple, moi, j'ai vu des machines à dips, où les poignées, pour faire les dips, hein, vous savez, elles sont tellement écartées que c'est une machine à arrachement d'épaule ou de pec. C'est pas du tout une... Déjà, j'ai l'impression que les triceps se bossent quasiment peu, ou pas. Et enfin, c'est une machine à arracher, sauf si vous êtes je sais pas moi, quelqu'un hyper large d'épaule qui fait 2 mètres quoi. Mais sinon, c'est pas quelque chose pour monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce que j'avais vu comme machine? Ben les presses là, comme tu dis, les presses horizontales où le siège est fixe et c'est le plateau où on part d'en bas, en fait, ça je trouve que c'est pas forcément des très bonnes machines quoi. Et c'est un peu comme, vous savez, ces machines convergente pour les pecs, où vous démarrez d'en bas. Toutes ces machines convergentes pour les pecs, on démarre d'en bas. Hein. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Il faudrait des machines convergentes où on démarre d'en haut. Et sur toutes ces machines-là, notamment les technogym dont tu parles, qui d'ailleurs, si c'est celle guidée où tu mets les plaques, avec charge fixe, enfin, je sais pas si on dit charge fixe, mais charge, comment on dit déjà? Enfin, charge intégrée à la machine, quoi. Donc, c'est des plaques où t'as la goupille. Ou si c'est celle où tu mets les disques. Les technogym où tu mets les disques, là, qui sont jaunes, très imposantes. Ça, c'était hyper, hyper bien pour l'ego parce qu'on pouvait tous mettre des tonnes dessus. Je me souviens. Le pire, c'était la déclinée. La déclinée, on pouvait charger. On avait l'impression d'être des super forts. Mais le problème, c'est qu'on part, c'est toujours pareil. On part sur l'étirement. Et moi, j'avais trouvé 2-3 astuces avec ces machines-là. Ce que je faisais, c'est que dans une salle où j'étais avant, il y avait des gros blocs de bois, des morceaux de poutre en bois, quoi. En fait, je levais les bras de la machine, je calais la poutre en bois, donc ça me faisait gagner pas mal d'amplitude, hein. Et donc, du coup, je partais, mon pec il était pas du tout étiré. Et ça me permettait de mettre plus lourd, parce que forcément, quand on part de tout en bas, on peut pas mettre aussi lourd que si on part d'en haut. Parce que vu qu'on perd de l'énergie élastique, il y aura toujours une différence. Et moi, du coup, ça me permettait de mettre plus lourd et de faire mes séries plus lourd, quoi. Mais bon, bref, après, c'est de la technique de bricolage. Quand j'étais en salle, maintenant je m'entraîne au home gym, mais quand j'étais en salle, à chaque fois que les gens venaient me voir, ils me disaient « Ah tiens, j'y avais pas pensé » parce qu'on avait un banc, par exemple, incliné qui était complètement fixe, qu'on pouvait pas régler pour faire du développé incliné. Et pareil, je prenais ces gros blocs de bois que je mettais sous l'assise pour, au lieu d'être à 45 degrés, de descendre peut-être à 30 degrés, quelque chose comme ça, quoi. De manière à faire, à moins taper mes épaules et un peu plus. Alors, chez moi, le haut de pec marche un petit peu avec l'incliné. Quand j'ai commencé, ça marchait pas. Ça se met de plus en plus à marcher bien, en plus. Donc voilà. Mais bref. Donc, dans une salle de sport, c'est pour ça, il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des connaissances pour réussir à détecter les bonnes des mauvaises machines. Faut avoir un minimum de connaissances en anatomie. D'ailleurs, j'avais fait un cours sur plein de petits cours comme ça sur l'anatomie par rapport à si tu veux recruter l'externe de l'ischio, l'interne du quadri, la longue portion du biceps et tout. J'avais fait des cours vidéo que je te mettrai sur en lien sous ta question là dans les notes. Comme ça, tu pourras aller voir. Voilà. J'ai parlé ce week-end de fructose et de musculation. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'on a eu ces dernières années beaucoup de gens attirés par le fructose, soi-disant sucre sain, soi-disant sucre du fruit, etc. Donc vous allez savoir dans ce cours, j'ai parlé du problème réel du sucre, ce que dit l'OMS sur ça, le fructose et le système immunitaire. Le fructose naturel est-il le même que le fructose chimique? Et d'ailleurs, d'ailleurs, vous allez voir que c'est pas forcément très facile à comprendre. Le fructose non naturel, l'origine et les causes organiques. Athlète et fructose duo gagnant, oui ou non? Exemple de teneur en fructose d'aliments courants. Pour la récupération post-entraînement, un dosage parfait. Le sucre qui se cache dans votre diète. 11 astuces pour se désintoxiquer du sucre. Et un PDF avec le cours en vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous allez voir. Parce que, justement, moi, c'est un sujet j'ai beaucoup étudié là ces derniers temps. Fructose, sucre caché, tous ces trucs-là. Et bon, voilà, je trouve que c'était le bon moment d'en parler parce que, voilà, quand j'enregistre ce podcast, on est pendant l'été et je sais que beaucoup de personnes mangent des fruits durant l'été. C'est agréable, c'est frais et tout. Il faut juste avoir quelques notions par rapport à ça parce qu'on a, vous savez, la notion 5 fruits et légumes par jour. Moi, je suis pas forcément d'accord. J'aurais plutôt dit, je sais pas, 3 légumes, 2 fruits ou, enfin, et d'ailleurs, c'est pas de moi, ça. Je sais plus qui en parlait il y a pas longtemps, mais c'était un médecin, je crois, qui disait que on n'était pas assez précis justement sur ces 5 fruits et légumes parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont bouffer une tomate et 4 nectarines, quoi. Donc c'est moi là, je suis contre ça. Ça va pas dans pour moi dans le bon sens. Faut pas trop. En fait, on se rend compte que plus on laisse de liberté aux gens, plus ils vont se tourner vers les mauvais choix, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est pas que les tarines ce soit mauvais, mais c'est mieux que des Twix. Mais à un moment, trop de fructose, voilà. Donc on en parle dans ce cours vidéo. Allez voir, je vous ai mis le lien. Et puis sinon, profitez bien de votre piscine, de la mer, de la rivière ou de la reprise du boulot pour ceux qui reprennent. Et on se retrouve dans les notes de cet épisode si vous voulez continuer le dialogue avec moi. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmith.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.